d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, avec ce soir des membres de PIAF et des journalistes de Attac, à moins que ce ne soit l'inverse.
Et ce soir, encore une émission confinée, c'est notre deuxième pour cette équipe. Nous sommes le vendredi 8 mai, mais en fait l'émission a été enregistrée il y a deux jours, le 6 mai. Alors nous sommes avec un invité, Thierry Jacquot, qui se désigne lui-même comme un paysan dans les Vosges et qui est membre du comité national de la Confédération paysanne et avec qui nous allons parler de toutes les conséquences du Covid sur l'agriculture et peut-être aussi d'autres modèles agricoles. Mais nous commençons, bien entendu, par les chroniques de Jean-Marc, qui veut nous parler d'éducation. Une petite fable moderne.
Voilà, une petite fable moderne. Et en vert, s'il vous plaît. Le Conseil scientifique un jour déclara « L'ouverture des écoles en septembre sera. Que croyez-vous qu'il se passa ?» Macron déclara « Le 11 mai, ce sera. » Et que vogue la galère ? La France dut se taire.
Mais il n'y a pas que de la poésie, tu veux aussi nous faire des maths.
Et oui, nous avons de drôles d'équations avec ce coronavirus et surtout la gestion gouvernementale. Donc, problème logique et juridique. On nous annonce qu'après le 11 mai, et encore dans les seules zones vertes et oranges, on pourra envisager de se réunir jusqu'à 10 personnes, mais pas au-delà. Mais, dans le même temps, l'éducation nationale parle de groupes de 15 élèves dans le secondaire. Rappelons aussi que les experts, entre guillemets, avaient parlé d'une rentrée en septembre, mais ça... comme je l'ai rappelé dans la fable, c'était avant le duo Pénicaud-Roux de Bézieux.
Alors, Éducnat toujours, 15 élèves ?
Eh oui, alors l'éducation nationale n'est pas à une contradiction près et Blanquer qui est toujours aussi excellent, nous balance 53 pages de préconisations absolument imbitables et inapplicables, et l'une d'entre elles, c'est qu'il faut donc un certain nombre de mètres carrés par élève. Donc pour arriver à 15 élèves dans une salle, il faut des salles de 50 mètres carrés, et malheureusement, qu'il s'agisse des écoles primaires ou secondaires, eh bien entre la moitié et les deux tiers des salles dans les établissements ne font pas 50 mètres carrés, mais moins. Donc ça veut dire qu'en plus des autres problèmes d'organisation et des 28 lavages de mains par jour, il va y avoir un problème de locaux. Ce qui explique peut-être pourquoi sur une école parisienne moyenne de 350 élèves, on devrait arriver à avoir entre 70 et 80 élèves maximum autorisés à venir.
Bon, c'est pas gagné de mettre des enfants dans une salle avec, en poussant les murs, mais pour leurs parents, pas de problème.
Ce sera parfait à partir de lundi, on le sait, la RATP, la SNCF proposent 70, 75, 80%, on ne sait plus, de transport assuré. Le problème, c'est qu'une rame de métro peut contenir entre 500 et 1000 personnes facilement aux heures de pointe. Tout le monde devra avoir des masques et dans le même temps, la RATP prévoit de condamner un siège sur deux. Comment cela sera-t-il possible ? On en arrive à des gens qui suggèrent que la police, voire des militaires, se trouvent à l'entrée des stations et des gares les plus fréquentées de RER. Bonjour l'ambiance. Donc, si on continue la logique gouvernementale, plus de 500 personnes dans une rame, certes avec des masques, ce n'est pas dangereux, mais 11 personnes réunies pour faire la fête ou enterrer un copain, ça c'est très dangereux, surtout que les enterrements, en général, c'est très confiné, c'est pas du tout en plein air. On se demande quel conseil scientifique a pu pondre cela. Si les poules pondaient des œufs sur les mêmes méthodes, ils seraient sans doute carrés.
Alors, moi j'habite à Saint-Denis et ma ligne de métro, c'est la meilleure de toute l'Île-de-France. Ça s'appelle la ligne 13.
Eh oui, la ligne 13, qu'on connaît aussi comme la ligne de l'enfer, la ligne de la honte, bref, c'est la ligne de tous les superlatifs. Et c'est une ligne qui est amusante, pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'on part des quartiers les plus défavorisés de l'Île-de-France pour arriver jusqu'aux Invalides, les quartiers les plus favorisés de l'Île-de-France. Donc, cette ligne 13... qui relie les pauvres aux riches, eh bien, ce qui est très amusant, c'est que pendant toute la période du confinement, elle a été extrêmement fréquentée. Il n'y a pas un seul moment où la ligne 13 ait été complètement fermée, et pour cause, il fallait que les esclaves de la banlieue nord puissent rejoindre le centre de Paris, et s'il y en a qui doutent ou qui pensent que c'est de la fake news, eh bien, il y a de nombreuses photographies, vidéos qui ont été postées et authentifiées. par différents moyens, montrant donc les gens qui s'entassaient dans la ligne 13 ainsi que dans les bus de banlieue, de la banlieue nord vers Paris. C'est comme cela que les confinés ont pu manger et avoir leurs ordures ramassées, par exemple.
Alors, on vient de parler d'éducation, on vient de parler des transports en commun, mais je crois que tu veux aussi nous parler de la règle des 39 999 mètres carrés.
Ah oui, alors pour le commerce, c'est aussi très rigolo. On n'aura toujours pas de bistrot ou de restaurant parce que c'est dangereux, mais les centres commerciaux pourront rouvrir jusqu'à 40 000 mètres carrés, tout de même 40 000 mètres carrés. C'est vrai qu'un centre commercial de 40 000 mètres carrés, entre les voitures, les circulations, en général c'est bien confiné, un centre commercial, ça ne pose pas de problème. Mais ouvrir un théâtre de 100 places, là c'est la catastrophe sanitaire. De la même façon, quand vous serez dans votre galerie commerciale, vous aurez le droit d'aller chez Carrefour ou Auchan, le clou du spectacle. Par contre, vous ne pourrez pas aller manger un M ou boire un petit café dans le restaurant ou le café de la galerie, parce que ça c'est dangereux. Donc faire la queue chez Carrefour, c'est prophylactique. Par contre, aller boire un café, ça c'est très très dangereux.
Alors, on change de sujet parce qu'on est quand même dans l'actualité. Aujourd'hui, 8 mai, mais la semaine dernière, c'était le vendredi 1er mai. Et nous avons pu, comme d'habitude, fêter tous les travailleurs et les non-travailleurs. Nous avons fêté le 1er mai. C'est bien ça ? On l'a bien fêté ?
Un 1er mai, c'est plutôt un 1er mai comme Macron le souhaitait. Pas de manif, pas de manifestants. Mais Jupiter, jamais avare de petites formules, parle de l'esprit du 1er mai dans son allocution. Et oui, encore une allocution. Il y a pratiquement une allocution par jour en ce moment. On n'en peut plus. Lui, dont le programme est de mettre à terre les acquis cumulés de 36, 46, 68, 81, ne manque pas d'air. Mais peut-être les travailleurs privés de Muguet auront-ils, à la place du Muguet, une photo dédicacée de Muriel Pénicaud.
J'ai l'impression que tu l'aimes pas trop, Muriel Pénicaud, moi. Ouais.
Bah, personne ne l'aime. Hein.
Ah, c'était ça le truc, ouais.
C'est pour ça, c'est un vilain canard, personne ne l'a jamais aimé. C'est pour ça qu'elle est méchante.
Mais il y avait quand même des militants dans les rues. Par exemple, les militants qui aident les autres, qui aident par exemple les SDF ou les migrants, ils étaient dans la rue le 1er mai.
Alors, un certain nombre d'associations de Montreuil, dont le NPA local, ont voulu organiser une distribution de vivres pour le 1er mai. Ils l'ont annoncé très, très officiellement. Ils ont apporté des cajots avec des fruits, des légumes et un certain nombre de choses de première nécessité. Sauf qu'à peine installés, ils ont été délogés par des policiers qui ont commencé par les invectiver, puis par les verbaliser, en brutaliser quand même quelques-uns pour faire bonne mesure. Sympa le 1er mai.
Alors, un 1er mai, il y a toujours deux manifs. Hein. La manif où il y a à peu près plein de monde pour célébrer cette fête. Et puis, de l'autre côté, il y a la manif du FN. En général, il y a deux tons, deux mesures. Mais ce coup-ci, non. C'était un 1er mai différent.
Eh oui, c'est un premier déconfiné pour les uns, mais pas pour les autres. 20 personnes ont essayé de manifester à Paris, place de la République. Pour rester dans les clous, ils ont manifesté avec des masques, avec plusieurs mètres d'intervalle entre les manifestants. Et ils ont été immédiatement arrêtés, sans ménagement, et mis en garde à vue au commissariat. Au même moment à peu près, Marine Le Pen, l'un de ses adjoints sympathiques, leur dizaine de gorilles, puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer sans gorilles, pouvait fleurir la pauvre Jeanne d'Arc qui n'avait rien demandé, comme d'habitude, devant un parterre de photographes et de caméras, sans que cela pose de problème à la police. Ce doit être ce qu'on appelle la Macronie.
La Macronie. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus pour définir ce que c'est que cette Macronie ?
Alors, la Macronie, c'est une définition assez simple. C'est un régime totalitaire dans lequel le président dispose de tous les pouvoirs sans contrôle réel, mais en faisant semblant de respecter la démocratie.
Enfin, on en a d'autres, hein, des pseudo-démocraties dans le monde en ce moment-là. Mais là, tu exagères. Donne-nous un exemple, par exemple, pour dire que cette Macronie ne respecte pas la démocratie.
Alors, on a l'un des chefs de file de cette Macronie à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, celui, vous savez, qui pense que les Français sont trop cons pour comprendre les réformes trop intelligentes de la République en marche. Eh bien, ce Gilles Legendre, jamais avare de bonnes réflexions, était interrogé sur l'application Stop Covid et le débat sans vote qui devait s'en suivre. Il déclare que le débat ait lieu, c'est une nécessité. Sous-entendu, c'est indispensable pour la démocratie. Et d'ajouter que le débat ait lieu, c'est essentiel, la main sur le cœur. Puis de conclure, et c'est là que ça devient croquignolé, le vote n'apporterait rien de plus. Et dans la Macronie, tout le monde trouve ça normal. L'un des chefs du parti majoritaire au Parlement qui dit, sans voir le problème, que le débat est nécessaire mais que le vote ne servirait à rien. On pourrait penser, à peu de choses près, que nous sommes dans un passage du film Borat, dans le texte, sauf que hélas, ce n'est pas Borat, c'est la réalité. Ceci explique d'ailleurs peut-être pourquoi Macron, dans un sondage comparatif européen, est à 24% de confiance, quand Merkel est à un peu plus de 50%.
Alors, et comme une petite anecdote supplémentaire dans cette Macronie, c'est qu'au Sénat, il y avait donc un vote quasi consultatif sur la continuité des mesures d'urgence, mais il y a quand même un des points qui avait été proposé par les sénateurs qui, globalement, avait pour but de protéger davantage les maires face à des poursuites judiciaires. Et le matin, les ministres, et surtout les ministres qui permettent d'avoir les relations avec le Parlement, s'étaient avancés en disant « le débat aura lieu ». Et c'est le gouvernement qui a mis un amendement contre ce texte des parlementaires sénateurs. Ce qui est amusant, c'est que pour une fois, la majorité LERM s'est opposée à un amendement du gouvernement et a clairement dit « non, ben là, exagérez pas les gars, on va voter ce que l'on pense ». Donc, la Macronie serait-elle en mal ? C'est le premier exemple en 2 ans et quelques.
Mais à l'arrivée, ça ne changera rien. Et je vous invite à regarder l'interview de Frédéric Dumas, la première députée LREM qui a quitté le groupe en 2017, qui est reçue par Denis Robert sur lemedia.fr. Et vous pouvez trouver la vidéo gratuitement sur YouTube. C'est limpide et édifiant sur le système macronien.
Voilà, ça termine notre première salve de brèves par Jean-Marc. Il y en aura d'autres à la fin de l'émission. Mais on enchaîne sur la chronique de Gaël.
Oui, je vais vous parler des forcenés du libre-échange. On pensait que tout le monde avait enfin compris que les pandémies aiment le libre-échange et qu'il est plus difficile d'y faire face quand notre économie est très mondialisée. Même Thierry Breton, le commissaire européen chargé du commerce intérieur, a affirmé récemment qu'on était allé, je cite, « trop loin dans la mondialisation ». Et même Emmanuel Macron avait dit le 31 mars qu'il fallait produire davantage en France et en Europe. Bref, à les écouter, on pouvait se dire que le libre-échange avait du plomb dans l'aile. Mais en vrai, non. Parce que pendant qu'ils disaient ça, l'Union européenne, donc eux entre autres, a continué à faire des accords de libre-échange sans aucune retenue. Fin mars, le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, a donné son feu vert à un accord de commerce avec le Vietnam. Début avril, le commissaire européen au commerce, Phil Hogan, a mené le 7e cycle de négociations avec la Nouvelle-Zélande pour un autre accord. Et puis les négociations avec l'Australie sont prévues au mois de mai. Et le 28 avril, la Commission européenne a annoncé fièrement que l'Union européenne et le Mexique avaient conclu les négociations sur leur nouvel accord commercial. C'est un accord très large qui réduit fortement les droits de douane, notamment sur les produits agricoles, qui ouvre les marchés publics mexicains à nos multinationales et qui inclut la désormais incontournable protection des investissements. C'est-à-dire des clauses qui permettent d'interdire des législations qui seraient trop sociales ou trop écolo, dès lors que ça menacerait les profits des investisseurs. Et alors que tous les libéraux font au moins semblant d'avoir compris que le libre-échange forcené est le problème, Phil Hogan, donc ce commissaire européen au commerce, déclare « Nous aurons encore plus besoin de cette ouverture, de ces partenariats et de cette coopération pour reconstruire nos économies après la pandémie ». L'entrée en vigueur de cet accord aidera l'Union européenne et le Mexique à soutenir leurs économies et à stimuler l'emploi. Donc le mec n'a rien compris. Un petit espoir dans tout ça. On a appris hier que la France et les Pays-Bas ont formulé des propositions conjointes pour réformer la politique commerciale européenne de manière à la rendre cohérente avec le Green Deal européen. Alors c'est pas innocent, c'est les deux pays qui ont le plus de mal à ratifier nationalement le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Donc ils cherchent à convaincre leur majorité qui sont en première ligne pour promouvoir une politique commerciale plus responsable. Leur document reprend quelques propositions portées par les mouvements syndicaux, écolos, altermondialistes, et notamment l'idée de conditionner la réduction des droits de douane au respect d'engagements sociaux ou environnementaux. Mais globalement, leurs propositions restent assez vagues et molles selon l'analyse de Mathilde Dupré, qui est co-directrice de l'Institut Veblen. Et Mathilde Dupré résume ainsi le texte. La logique est encore et toujours de chercher à maximiser les impacts positifs en matière sociale et environnementale des accords de commerce, sans réflexion sur la minimisation des impacts négatifs. Alors de nombreuses organisations appellent au contraire à cesser toutes les négociations commerciales en cours et à tirer les leçons de la crise sanitaire Il est temps de faire décroître les flux de capitaux et de marchandises et de passer à une relocalisation écologique et solidaire.
Voilà. Alors, on voulait prendre la parole pour dire que Jean-Yves nous a quittés. Alors, Jean-Yves, c'est un ami qui venait nous voir quand il pouvait ne pas travailler les vendredis soirs à l'émission. Il tenait parfois le clavier de la technique. Il amenait aussi beaucoup d'idées, d'articles. Il ne prenait pas la parole, mais il nous faisait passer du son, oui, de toutes ses musiques. Il aimait beaucoup, il avait souvent très bon goût musical. Et c'est cela, Jean-Yves, être présent, attentif aux autres et un passeur d'idées, un passeur de chansons. Alors, il est parti après, comme on dit, un long combat contre le crabe. Mais en fait, il a gagné ce combat. Hein, il a gagné ce combat parce que c'est pas le crabe qui l'a vaincu, c'est le coronavirus qui l'a eu. Alors, les musiques de ce soir, c'est des choix qu'il aurait pu faire, elles sont tirées de sa playlist. Lui qui, dès qu'il avait un livre ou un CD ou une idée ou une envie de faire rencontrer quelqu'un à quelqu'un d'autre, et il avait les mains ouvertes. Alors on écoute Devendra Bahar, Abre las manos.
Que solo pa' ti, es solo pa' ti, es solo pa' ti, es solo pa' ti.
Alors on est sur l'émission sans mode d'emploi, radio Fréquence Paris Pluriel 106.3, et nous sommes aujourd'hui avec l'équipe animée par les militants du journal Le Piaf et militants d'Attaque.
Et nous allons parler de Covid-19 et d'alimentation. Alors, depuis le début du confinement, on s'est bien rendu compte qu'on pouvait se passer d'une grande partie de notre consommation, sauf la consommation alimentaire. Et justement, la crise sanitaire a bousculé la chaîne économique qui va du champ à notre assiette. Alors, pour en parler avec nous ce soir, nous recevons Thierry Jacquot, paysan des Vosges et membre du comité national de la Confédération paysanne. Thierry, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va d'abord parler des problèmes actuels que pose la crise sanitaire dans la chaîne agroalimentaire. Tout d'abord, comment sont impactés les paysans en France ? Alors, on a entendu parler de pas mal de types d'impact, notamment sur la disparition des débouchés, le problème pour les fournitures agricoles. Quels sont les principaux impacts sur les paysans ?
Alors, ils sont de diverses sortes, mais en fait, ils n'impactent pas les paysans de la même façon. Ça dépend du modèle dans lequel ils sont inscrits. Donc, les agriculteurs qui sont en filière longue, eux connaissent effectivement des problèmes de débouchés, puisque tout le commerce, qu'il soit intra-européen ou international, est quand même tourne au ralenti au niveau des matières premières alimentaires. Donc là, il y a des fromageries, par exemple, qui ont arrêté de fabriquer par manque de personnel et par manque de débouchés aussi. Donc il y a une fromagerie, notamment par chez moi, là, qui fait du langre. Et c'est fou, hein, ils ont mis 5 tonnes de langre dans un méthaniseur au lieu de les distribuer aux gens qui en avaient besoin, par exemple, quoi. Voilà. Donc, et l'autre, une autre partie donc d'agriculteurs qui eux sont plutôt en circuit court, en circuit de proximité. Donc pour eux, il n'y a pas de gros problèmes. Il y a des problèmes surtout pour arriver à suivre la demande, puisque face à cette crise, à ce moment particulier qu'on est en train de vivre, il y a beaucoup de consommateurs qui sont reportés sur les circuits de proximité. Donc ça dépend quelle agriculture on pratique, mais aujourd'hui on voit bien que l'agriculture qui a été mise en place depuis plus de 70 ans et qui est animée depuis tout ce temps par la FNSEA connaît de grosses lacunes, parce qu'elle est essentiellement basée sur l'exportation et puis sur la fourniture de produits pour l'agro-industrie. Et donc aujourd'hui, ben, toutes ces filières-là fonctionnent mal. Voilà, pour pareil, problème essentiellement de, aussi de main-d'œuvre et puis de débouchés, puisque faut savoir que la principale débouché de ces filières-là, donc c'est l'exportation vers l'international. Mais pour chez nous, tous les produits qui sont faits d'une façon un peu intensive, utilisant beaucoup de produits pas très bons pour la santé humaine et environnementale, vont dans la restauration hors domicile. Et donc, comme celle-ci ne fonctionne plus aujourd'hui, eh bien, y a des stocks. Donc, voilà, c'est compliqué pour eux. Et du coup, les prix ont chuté. Et donc, voilà. Et les gens aussi ont changé leur façon de manger, de consommer. Donc, voilà, ça pose quelques problèmes pour certaines productions.
Alors, on imagine bien que des gros producteurs céréaliers peuvent avoir du mal à faire du circuit court, mais pour des gens qui, par exemple, fournissaient des restaurants que ce soit la restauration collective ou en ville, est-ce qu'ils réussissent à reconvertir leur agriculture, reconvertir leurs débouchés vers, par exemple, de la vente directe
livraison. Il a bien fallu qu'on réfléchisse à comment faire pour écouler nos produits. Donc, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place un peu partout, des drives paysans notamment. Donc ça, ça marche bien. On se donne rendez-vous avec les consommateurs à un certain endroit dans une commune. Et puis, donc, il y a un petit circuit qui est fait. Et les gens ne sortent pas de leur voiture juste pour ouvrir leur coffre. On leur met les marchandises dans le coffre. Voilà, on prend toutes les mesures qu'il faut. Donc, ça marche bien. Après, les gens qui pouvaient avoir des problèmes, justement, parce qu'ils livrent la restauration collective, il y a quand même. On a démarché les grandes surfaces qui ont joué le jeu de la vente locale. Heureusement, quoi, parce que sinon, oui, ça aurait pu mettre en difficulté pas mal de productions. Mais il y a d'autres productions qui sont un peu moins alimentaires, mais quand même qui vendent des plants alimentaires pour les faire dans son jardin, par exemple, hein, qui sont toutes les horticulteurs. Tout a été stoppé pour eux, donc c'est compliqué, quoi, par exemple.
On a beaucoup parlé des problèmes de main-d'œuvre pour les maraîchers, pour les produits saisonniers, notamment les fruits. Et la FNSEA a lancé cette opération des bras pour ton assiette, qui visiblement a été un succès. Est-ce que ça te paraît une bonne idée, c'est de faire appel à des Français
qui... Pourtant, on ne dit pas de bras, pas de chocolat. Hein.
à des Français désœuvrés plutôt que d'importer de la main-d'œuvre pas chère et mal payée.
Eh ben justement, c'est là qu'on voit que cette agriculture industrielle ne fonctionne pas et qu'elle est très, très dépendante de la main-d'œuvre étrangère. Et ça, c'est pas normal, quoi. Voilà, de faire venir que des gens soient obligés de quitter leur lopin de terre, parce que c'est beaucoup des paysans de Pologne, par exemple, hein, qui viennent travailler en France ou des pays maghrébins, mais ce sont des gens à qui on a retiré leur lopin de terre pour pouvoir se nourrir ou en vivre, donc qui viennent travailler chez nous. Et ce sont les grandes exploitations. Les légumières ou arboricoles qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre parce qu'ils ont des champs énormes et qu'il n'y a pas de machine pour faire certains travaux. Donc, voilà. Alors que nous, par exemple, hein, la Confédération Paysanne, nous, on prône l'agriculture paysanne, donc c'est une agriculture à taille humaine et de proximité. Quand on a besoin aussi de main-d'œuvre, seulement on n'a pas besoin d'une centaine de personnes. On peut travailler avec des gens qui sont autour de chez nous, que l'on connaît et qui vont venir travailler pour nous quelques heures. Il n'y a pas besoin de faire toute cette demande de main-d'œuvre, quoi, qui a été largement mise en œuvre par Didier Guillaume, hein, d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, quoi, voilà. Mais c'est vrai que c'est la FNSEA qui mène de toute façon la politique agricole dans notre pays depuis l'après-guerre. Hein. Donc voilà, c'est elle qui développe son modèle agricole. Et on voit aujourd'hui que ce modèle-là, enfin nous, ça fait longtemps à la conf qu'on le dénonce. On dit qu'on va arriver dans le mur. Et aujourd'hui, cette pandémie nous montre bien que ce modèle-là n'est pas viable, n'est pas durable. sur le plan social et environnemental.
Là, on a vu les conséquences sur les paysans. À l'autre bout de la chaîne alimentaire, enfin, à l'autre bout de la chaîne agroalimentaire, on a parlé aussi de risques de pénurie pour des pays qui dépendent beaucoup des importations. Début avril, le Programme alimentaire mondial estimait que plusieurs centaines de millions de personnes étaient menacées par des pénuries, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Alors même que les réserves sont importantes et que les cours sont assez bas. Et puis même en France, la Guyane, par exemple, importe 90% de son alimentation.
Ouais. Oui, ben c'est notre système économique mondialisé hein, qui veut tout ça, quoi. Et c'est vrai que nous, on est bien lotis ici, puisque... On a des aides sociales qui nous permettent de pouvoir manger, de pouvoir vivre. Et dans certains autres pays, eh bien, dès qu'il n'y a plus de travail, tout est fermé. Donc, ils n'ont pas la sécurité sociale qu'il y a ici et toutes les aides. Et donc, c'est compliqué pour eux. Les pays sont déjà gravement endettés. Donc, c'est pareil, recommander des importations... Eh ben, ça peut être compliqué financièrement pour eux. Il y en a qui se posent des questions. Après, les gens, on a fait aussi que tous les pays du monde produisent une certaine sorte de produits agricoles. Donc, aujourd'hui, les gens, par exemple, dans les pays du Sud, hein, beaucoup de soja qui est produit là-haut, du soja OGM, et qui nourrit nos bovins, nos élevages en France. Donc là, ça, c'est pas normal. Il faudrait que tous ces terrains-là servent pour nourrir les peuples localement, quoi. Voilà, nous, on entend beaucoup dans les médias en ce moment parler de souveraineté alimentaire. C'est repris par tout le monde. L'Europe s'en est emparée, mais je ne sais pas si ça vraiment ce que ça veut dire, quoi. La souveraineté alimentaire, elle a été définie par la Via Campesina, donc ce grand mouvement paysan dont la CONF est une des initiatrices. Voilà, la souveraineté alimentaire, c'est donc permettre au peuple de choisir librement de son agriculture et de son alimentation et de ne pas nuire à celle des autres, hein, à celle de nos voisins, quoi. Et aujourd'hui, malheureusement, la mondialisation de la chaîne agroalimentaire a massacré toute l'agriculture paysanne qu'il pouvait avoir dans tous les pays du monde. Et donc, voilà, on se retrouve avec des gros problèmes de faim dus à cette pandémie, mais aussi dus à la sécheresse, au dérèglement climatique, hein, qui continue, lui, pendant cette pandémie-là, quoi. Et donc, c'est sûr que dans l'avenir, même nous, ici en France, on va connaître des pénuries pour certains produits, quoi. Il faut pas se leurrer, quoi.
Tu parlais de cette mondialisation avec la forte interdépendance entre notre production bovine et la production de soja en Amérique du Sud. À l'heure actuelle, j'imagine que les importations de soja sont bloquées ou...
Les importations, c'est pas les importations, c'est le trafic en général qui est fortement ralenti, quoi, hein, parce que il y a beaucoup de problèmes chez les ouvriers, il y a beaucoup d'ouvriers, de salariés, de travailleurs qui ont attrapé le Covid, donc qui sont en arrêt. Il y en a aussi beaucoup qui sont morts malheureusement, et donc ça bloque tout le système, quoi.
Est-ce que ça pourrait avoir des répercussions sur la production de cette agriculture française très dépendante des intrants extérieurs ?
Eh bien, j'espère bien, moi, pour que comme ça, que le modèle change enfin, quoi. Et là, il faut qu'on privilégie et que l'on produise notre protéine chez nous. On est capable d'en faire. On n'est pas capable de produire du soja, mais il y a d'autres protéines qui peuvent remplacer le soja, quoi. Donc, qu'on peut cultiver ici. Donc voilà, il faut revenir à des politiques agricoles dans notre pays et en Europe qui vont vers une autonomie alimentaire européenne, en tout cas, quoi. Ça, c'est primordial.
Eh bien, on va développer justement ces pistes vers une autre politique agricole, juste après une petite pause musicale qui est...
On écoute un disparu depuis peu, le chanteur Idir, la voix de la Kabylie, qui chantait sa Kabylie, qui chantait « Ma montagne ».
Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des membres de ATAC et des journalistes du CAF.
Et avec Thierry Jacot, paysan des Vosges et membre du comité national de la Confédération paysanne. Alors, nous avons évoqué tout à l'heure les impacts divers de la crise sanitaire sur l'agriculture et puis sur la distribution alimentaire dans le monde. Maintenant, nous allons tracer quelques pistes sur quelle agriculture, enfin, quel autre modèle d'agriculture permettrait de réduire l'impact des pandémies. Tout le monde aujourd'hui parle de souveraineté alimentaire, comme tu disais. Est-ce que ça signifierait qu'aujourd'hui tout le monde se range aux positions de la Confédération paysanne ?
Eh bien, j'aimerais bien y croire, mais... Non, c'est parce que c'est un terme, je sais pas, c'est un terme qui est à la mode en ce moment, qu'on entend beaucoup, et donc voilà, c'est comme ça, tout le monde se l'approprie et se le met à sa sauce, quoi. Hein, c'est sûr que
moi, je dis Bruno
la vision
Le Maire,
de la souveraineté. Ouais. Christiane Lambert hein, aussi l'utilise beaucoup en ce moment. Mais voilà, elle a sa vision de ce que c'est que la souveraineté alimentaire. C'est pouvoir écouler les produits français voilà, partout dans le monde, mais surtout pas en rapporter d'autres pays. Quoi. Voilà, hein, ça va dans un sens, mais pas dans les deux. Voilà, la souveraineté alimentaire... C'est quelque chose de primordial parce que l'alimentation, l'agriculture, l'alimentation sont primordiales pour tous les êtres humains sur Terre. Quoi. Sans elles, on l'a vu, on le voit en ce moment pendant cette pandémie, hein, que sans elles, eh ben, les gens mourraient de faim rapidement. Donc voilà, l'agriculture, il faut y penser. Ça a permis ce confinement aux gens de penser, voilà, au métier difficile que font les gens pour pouvoir nourrir les autres, hein, comme les personnes qui travaillent aussi dans les abattoirs, ça on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un métier compliqué et difficile et qui est mal payé, quoi, comme beaucoup de tous ces emplois-là. Donc voilà, souveraineté alimentaire, et donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les peuples puissent décider eux-mêmes, démocratiquement, de leur agriculture, du modèle agricole qu'ils veulent dans leur pays et de l'alimentation qu'ils veulent. Et pour ça, il faut que tout le monde, qu'on se mette tous autour de la table et qu'on en discute, quoi. Aujourd'hui, c'est très corporatiste, l'agriculture, hein, la FNSEA, c'est elle qui dicte quels produits agricoles, comment vont être fabriqués, enfin tout, voilà, de définir tout ce que c'est qu'un produit agricole, comment il va être fait, et avec l'agro-industrie, puisque de toute façon, la FNSEA est à la tête de tout ça, sauf de la grande et moyenne, des grandes et moyennes surfaces. Donc c'est pour ça que c'est la guéguerre entre eux au niveau des prix, quoi. Mais sinon, tout le reste, voilà, c'est eux qui définissent ça. Et c'est pas ça, la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, voilà, c'est que tout le monde décide, se mette autour de la table, et donc que ça soit de toute façon à la agriculture qui soit respectueuse de son environnement social et naturel, donc une agriculture à taille humaine, une agriculture qui emploie beaucoup de monde, une agriculture qui est très diversifiée et relocalisée sur tous les territoires. Aujourd'hui, on le voit, il faut que toutes les productions soient réparties sur tous les territoires dans le monde pour que tout le monde ait une agriculture diversifiée, enfin une alimentation diversifiée. Et que c'est une, une chaîne, ça, voilà, qui, on a besoin, par exemple, pour faire des légumes, on a besoin de fumier, donc on a besoin d'élevage, voilà, c'est toute une chaîne, et s'il manque un maillon, eh ben, tout est cassé, ça ne marche pas. Donc il faut arrêter les spécialisations des régions, comme là, chez nous, dans la Beauce, où on ne trouve que des céréales, qu'il n'y a plus un arbre, il n'y a plus de biodiversité, tout est mort, donc tout ça, il faut arrêter, il faut revenir à des fermes à taille humaine qui produisent une alimentation de qualité.
Mais alors justement, ces gros
en
céréaliers...
Pour le fumier, il y a la réduction mince.
ces gros céréaliers de la Beauce, comment on les ferait... comment on ferait leur transition vers cette agriculture?
Eh bien, il faut... De toute façon, on a toujours besoin de produire des céréales, donc faire des champs plus petits, déjà. Hein, il y a des études, une étude de l'INRA, qui démontre qu'il faut revenir à des terrains d'une superficie de 5 hectares entourés de haies, quoi, par exemple, voilà, pour recréer beaucoup de biodiversité. Donc revenir à des petites surfaces et remettre de l'élevage en Beauce. Il faut remettre des animaux en Beauce, par exemple, quoi. Enfin, dans toutes les grandes régions céréalières, il faut remettre de toutes les productions. Parce que voilà, c'est vrai qu'il faut penser aussi aux gens dans le monde qui ne peuvent pas produire autant de produits que nous, notamment au niveau céréales. Hein, il y a tous les pays du nord de l'Afrique, par exemple, voilà, qui sont très dépendants de nos céréales. Donc, il faut de toute façon arrêter tout ce qui est accord de libre-échange. Nous, on prône de sortir l'agriculture et l'alimentation de l'OMC et des accords de libre-échange. Et on est pour des partenariats d'échange solidaires entre tous les peuples pour que tout le monde ait à manger sur Terre, que personne ne soit dans le besoin. Voilà. L'alimentation, l'agriculture, ce ne sont pas des marchandises comme les autres. C'est essentiel à la vie, donc il faut être respectueux avec et ne pas faire n'importe quoi.
Et j'ai une question, si on veut relocaliser au niveau d'un pays, on va avoir un producteur, je ne sais pas moi, de fruits en Beauce qui va avoir une production beaucoup plus faible et peut-être plus dure à écouler qu'un producteur de fruits dans le sud de la France. On n'a pas de frontière entre les deux. Tu as une idée d'un mécanisme qui permettrait de rendre un peu égalitaire l'écoulement des produits pour ces deux producteurs-là?
En fait, si on veut vraiment aller jusqu'au bout de ce que l'agriculture paysanne prône, c'est qu'il faudrait revenir vraiment à une alimentation locale, quoi, la plus locale possible, parce que c'est bon pour notre santé déjà, parce que de manger des fruits ou des légumes qui ne sont pas de chez nous, par exemple, on n'a pas le microbiote intestinal qui est développé pour digérer ces aliments-là. Et donc ça peut nous rendre malades, il faut, voilà. Donc, il faut essayer de manger le plus local possible. Et après, local, un département du Sud par rapport à Paris, par exemple, ça reste local. Hein, mais voilà, il faut que les marchandises soient transportées par train, il faut arrêter toute la circulation de tous les camions, de toutes les SMIC qu'il y a partout, qui transportent une alimentation de bas de gamme, quoi. Il faut arrêter avec
pourtant,
tout ça.
Pourtant, il en faut des semis dans l'agriculture.
Ouais, il en faut des semis, eh oui. Mais pas, c'est pas les mêmes. Là, il faut du bon semis, quoi. Des bonnes graines paysannes, des bonnes semences paysannes, et voilà, qui vont faire des bons produits.
Et alors, dans ce modèle-là, permettrait d'être plus résistant aux crises sanitaires. Et est-ce que inversement, ce modèle-là permettrait permettrait d'éviter des crises sanitaires?
Eh bien oui, parce que on vit de plus en plus de problèmes sanitaires en agriculture, mais pas que, en santé humaine aussi. Et donc la mondialisation acharnée là, de tout ce commerce international, et donc les produits alimentaires, les végétaux aussi, eh bien ça fait déplacer énormément de problèmes sanitaires, hein, de maladies, quoi. Donc il y a des maladies qu'on connaissait pas chez nous et qu'on a maintenant sur les végétaux, sur les animaux, et donc les pandémies, pourquoi on a affaire à des pandémies, c'est toute la circulation humaine aussi à travers le monde qui fait circuler tous ces virus là Donc voilà, il faut arrêter aussi avec tout le tourisme de masse comme on le pratique aujourd'hui, parce que c'est pas bon pour l'environnement et pour le climat. Il faut revenir à des méthodes douces, quoi. Il faut qu'on, qu'on revienne à une vie plus posée, plus simple, plus sobre en tout, hein, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. De toute façon, on le voit bien, quoi. Notre monde, il est fini et on ne peut pas prôner la croissance à tout va. C'est juste une imbécilité, quoi. C'est un illogisme total. Donc, revenons à des choses simples, des productions locales faisons des échanges de produits qu'on peut avoir besoin et qu'on n'a pas ici avec d'autres peuples, mais faisons des échanges solidaires avec eux.
Bien, bien, merci Thierry pour ces pistes pour le monde d'après. Et ça va être au tour d'Alex pour sa chronique.
Donc, libre d'innover à condition d'obéir. Au moment où on fête le 75e anniversaire de la capitulation allemande, il ne faudrait pas oublier un autre anniversaire, celui de la débâcle de mai-juin 40. Anniversaire qui me semble personnellement plus en phase avec l'actualité. Ben ouais, ça va faire bientôt 80 ans qu'on va pouvoir fêter, qu'a eu lieu la débâcle de mai-juin 40. Bon, ceux qui m'ont écouté le mois dernier se diront que je suis en train de radoter, vu que j'ai déjà fait le coup de la comparaison entre cette débâcle et la débâcle de l'administration française incapable de fournir des tests et des masques à l'essentiel de la population. Mais j'insiste, parce que le parallèle est non seulement facile, et assez drôle d'ailleurs, si on aime bien l'humour noir, mais plus profond, et même nettement plus profond qu'on l'imagine. Et donc du coup, je vais faire un long détour en passant par un historien français qui s'appelle Johann Chapoutou, qui est un spécialiste du nazisme et qui a publié un ouvrage un peu provocant intitulé « Libre d'obéir, le management du nazisme à nos jours ». Donc évidemment, dès qu'on entend ce titre-là, on est un petit peu choqué. Le but du bouquin n'est pas de prétendre que le management est une invention nazie ou encore pire, d'imaginer que dans tout manager, il y a une sorte de Eichmann en puissance qui serait en train de sommeiller. Ce serait juste totalement débile et ce n'est pas le propos de Chapoutou. Le grand intérêt du livre, c'est plutôt de montrer qu'il y a une spécificité du management ou de la pensée managériale qu'on peut retrouver dans des contextes très différents, que ce soit idéologique ou matériel ou historique. Et dans le but de remplir des objectifs également complètement différents. Cette pensée managériale est ce que j'ai essayé justement d'en comprendre les spécificités, de voir dans quelle mesure ça pourrait s'appliquer aujourd'hui. Cette pensée managériale, elle s'oppose par principe à la bureaucratie. Selon cette théorie du management, ce courant de pensée, toute administration tend à devenir une bureaucratie, c'est-à-dire une organisation dans laquelle une norme, un ensemble de règles, précise exactement ce que chacun doit faire et comment. Une bureaucratie achevée est nécessairement inefficace parce que plus personne ne prend l'initiative, parce que chacun attend des ordres. Et chacun...
Pourtant, on achève bien les chevaux.
Ouais, là, il va falloir que j'y réfléchisse. La prise de décision est prise à un niveau très élevé, souvent le plus élevé possible, dans la chaîne de commandement, et prend du temps. Et parce qu'il faut le temps que l'information remonte et le temps qu'elle redescende ensuite. Donc la bureaucratie, dans cette pensée managériale, est le terme par lequel on peut décrire une administration qui, à force de réglementation tatillonne, est devenue rigide et incapable d'adaptation rapide à un contexte changeant. Le management consiste à débureaucratiser les administrations en permettant au chef de niveau intermédiaire, celui qu'on va appeler le manager, de prendre des initiatives et de se faire obéir sans avoir recours à la hiérarchie supérieure. Dans un monde managérial, la hiérarchie supérieure, la direction politique, les hauts fonctionnaires fixent des objectifs généraux et des normes souples. Et alors j'adore cet oxymore, la norme souple. Donc une règle souple, c'est une règle qui peut changer en fonction des circonstances, à condition que cela ne contrevienne pas aux objectifs fixés au sommet. Le manager, lui, doit trouver des solutions pour atteindre les objectifs en s'adaptant aux circonstances et en utilisant les moyens, souvent limités, qu'on lui laisse pour y parvenir. Il doit faire preuve d'enthousiasme, être capable de susciter l'adhésion de ses subordonnés et montrer qu'il est pleinement en phase avec les souhaits de sa hiérarchie. Il doit surtout être innovant, capable de mettre en place de nouvelles procédures, de repérer les bonnes idées parmi celles que proposent spontanément ses subordonnés. Bref, le manager est le contraire d'un gras de papier austère, c'est un magicien qui tous les jours arrive à faire son numéro, un nouveau numéro tous les jours. Alors quel rapport avec la débâcle de mai-juin 40? La campagne de France de mai-juin 40 a été vécue par certains penseurs nazis, dont les initiateurs du management, comme la preuve ultime de la supériorité du management à l'allemande, la liberté allemande sur le modèle bureaucratique français. Et on ne peut pas leur donner complètement tort. La doctrine militaire française était fondée sur le principe d'une parfaite coordination entre les différents corps d'armée. Le rêve napoléonien d'un chef qui contrôle tous ses soldats comme des pions sur un jeu, sur une carte. C'est ce rêve qui s'est effondré en mai-juin 40. Pour que la coordination soit parfaite, il faut que toute l'information soit centralisée.
En même temps, il n'y a pas que le rêve qui s'est effondré.
Un peu tout le reste de l'armée, de la politique, oui, non, je suis d'accord. Au niveau de l'état-major, et que celui-ci décide de manière précise ce que chacun doit faire. Or, ce va-et-vient entre la base et le sommet prend du temps, surtout quand l'état-major est loin du front et refuse d'utiliser la radio par peur des interceptions. Pour l'anecdote, à la fin, Pétain recommandait d'utiliser les pigeons voyageurs. À l'inverse, côté allemand, on a des super managers, des généraux comme Guderian ou Rommel, qui prennent des initiatives et qui parfois désobéissent aux ordres quand ils sentent qu'ils peuvent exploiter leur avantage. Le résultat est caricatural. Guderian parvient à couper l'armée française en deux et à encercler les meilleures troupes françaises. Alors qu'une contre-attaque bien coordonnée et faite au bon moment aurait renversé la situation, comme sur un jeu de go, en encerclant le groupe d'armée Guderian. Cette contre-attaque, toujours prévue, n'est jamais arrivée à l'heure. L'état-major a systématiquement, pendant toute la campagne, 3 ou 4 jours de retard sur l'avance allemande. Donc chaque fois, on prévoit la contre-attaque, et chaque fois, elle arrive en retard. Alors, évidemment, il faut relativiser ça, parce que la suite de la guerre a démontré les limites des super-managers comme Guderian ou Rommel, et les limites en général de l'armée allemande et de la stratégie allemande. Mais quel rapport avec aujourd'hui, avec la situation actuelle ? Bah, là encore, je vais faire un détour, hein, mais il y a un économiste qui est en train de devenir ma tête de turc, qui s'appelle Philippe Aguillon, qui est un spécialiste de la croissance et de l'innovation, qui est professeur au Collège de France et qui est l'un des conseillers officieux de Macron, qui s'est permis, dans une longue interview à France Culture, par ailleurs intéressante, de faire une comparaison entre la situation sanitaire française et la situation sanitaire allemande, en montrant que justement cet écart, et notamment le nombre de morts, était la preuve de l'inefficacité de l'état bureaucratique français et de la supériorité du modèle libéral, ordo-libéral, dirait certains, et managérial allemand. Alors, ce que demande Aguillon depuis longtemps, et il l'a mis dans tous ses bouquins et même dans ses cours, c'est une modernisation de l'État français qui doit gagner en efficacité, qui doit arriver à être aussi efficace que l'État allemand. C'est-à-dire réussir ce tour de magie managériale qui consiste à faire plus de services publics en dépensant moins. Dans tous les domaines, et en particulier dans celui de la santé, on a suivi les recommandations d'Aguillon et les tenants du nouveau management public. On a débureaucratisé, au moins en apparence, pour mettre en place des agences de santé régionales avec des spécialistes du management dont le rôle principal a consisté à diminuer les moyens des hôpitaux en faisant passer le message qu'avec de l'innovation, des nouveaux process, on pouvait faire mieux avec moins de moyens. Le résultat est un triomphe du managérialisme, un tour de magie purement rhétorique. On a réussi à faire fonctionner le système à flux tendu, en le rendant du coup beaucoup moins capable de faire face à une situation de crise. On a fabriqué une bureaucratie intermédiaire coûteuse et largement inutile. Et au bout d'un mois, on a pu constater que ce sont les médecins, les infirmiers et les infirmières sur le terrain qui ont réussi à s'organiser au niveau des hôpitaux pour faire face à l'afflux de médecins, à l'afflux de patients. Je pourrais multiplier les exemples dans d'autres domaines des méfaits de cette pensée managériale, mais je ne peux que constater et m'inquiéter de cette propension des penseurs à l'Aguillon d'utiliser la situation actuelle pour justifier le managérialisme en continuant de cultiver un complexe vis-à-vis de l'Allemagne.
Alors ça conclut dans le vif cette chronique d'Alex. On a le temps peut-être d'un petit bout de chronique de Jean-Marc. Est-ce que tu veux nous parler de cette contradiction, de cette opposition entre masque d'aujourd'hui et masque d'il y a un mois ? Non ? Tu voulais nous parler qu'il y a eu 25 changements de cap sur l'utilité et l'unité des masques, et qu'on est passé brutalement des masques qui faisaient défaut, genre pénurie dans les grandes surfaces, on nous annonce que les stocks sont impossibles à avoir, et puis depuis deux jours, on apprend que les masques sont en vente massivement pour toute personne qui veut débourser.
Alors c'est le grand feuilleton que Netflix va monter pour la saison prochaine, c'est l'histoire des masques en France, avec à peu près 25 changements de cap en deux mois et demi, sur l'utilité ou l'inutilité des masques, sur les arrivages qui arrivent, qui n'arrivent pas, sur ceux qui sont virtuels, ceux qui sont réels, etc. etc. Nous arrivons au déconfinement et l'affaire masque continue, avec une augmentation considérable des préconisations, ce qui était totalement inutile lorsque le virus était le plus actif, devient utile quand le virus est en phase descendante, et même indispensable quand, pour le déconfinement. Donc ça, ce sont les préconisations médicales. Je ne suis pas médecin, je m'arrête là. Sauf qu'en pleine pénurie, ça fait deux mois et demi qu'il y a pénurie de masques. Encore cette semaine, les hôpitaux de Seine-Saint-Denis réclamaient du matériel et faisaient la manche au sens figuré pour essayer d'avoir le matériel qui leur manquait. Eh bien, au moment où on a ces hôpitaux qui se font financer par du crowdfunding ou par des dons individuels, eh bien, au même moment, les grandes surfaces nous annoncent qu'elles sont prêtes à vendre des millions de masques dans leurs rayons. Donc la question que ça pose, c'est de savoir si il y a une question de marchandisation de la santé, y compris en pleine pandémie. Et ça veut dire que quand il y avait besoin pour les soignants, on n'avait pas de masques. 15 jours après, les grandes surfaces ont des millions de masques. Donc est-ce à dire que Carrefour est plus efficace que le gouvernement ? Première question. Est-ce à dire que les masques n'existent pas quand ils sont gratuits, mais qu'ils réapparaissent comme par magie lorsqu'on peut faire du pognon dessus ? Donc ce sont deux questions qui sont quand même gravissimes, et ce n'est pas le gauchiste dans l'âme que je suis qui le dit, ce sont les organisations de pharmaciens qui sont remontées, mais comme des diables dans une boîte. Pourtant, les pharmaciens sont rarement des gauchistes extravertis, et là ils critiquent à boulet rouge le gouvernement. Ils estiment qu'on les a roulés dans la farine, qu'ils se sont fait insulter pendant deux mois et demi parce qu'ils n'avaient jamais de masque à vendre, par des gens qui parfois en avaient vraiment besoin, notamment les gens qui avaient plusieurs pathologies, et qu'on leur a dit qu'il n'y en avait pas et qu'on ne pouvait pas les inventer d'un tour de passe-passe. Et du jour au lendemain, Carrefour, Auchan et compagnie ont des millions de masques.
On termine sur cette contradiction de notre quotidien confiné. Et pour terminer, on remercie tous les intervenants et notre invité Thierry Jacquot de la Confédération Paysanne, Gaël, Jean-Marc et Alex aux chroniques. Claude, évidemment, à la technique. Et puis, une petite pensée, encore une, pour notre ami Jean-Yves, bien parti bien trop tôt, et on écoute la chanson qu'il adorait, qu'il voulait qu'on écoute en pensant à lui, Lojo, Brûler la mèche.
Nous aurons laissé une traînée de poudre, fait un cercle.